Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire,
dont nous amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Juste près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas »
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Comme annoncé la semaine dernière, nous vous proposons la lecture de quelques extraits de « Tout s'est bien passé » d'Emmanuel Bernheim, édité chez Gallimard et paru en janvier 2013. C'est l'histoire vraie de son père, André, qui, diminué physiquement à la suite d'un AVC, a exprimé le souhait d'en finir. Ce témoignage bouleversant pose le problème de la liberté de mourir comme on l'entend, ce qui à ce jour est irréalisable en France.
De sa sœur Pascal et la narratrice se précipite aux urgences où leur père, âgé de 88 ans, vient d'être conduit. Les examens ont montré un infarctus cérébral et d'importants anévrismes de carotide interne. Quelle va être l'évolution? On ne sait pas. C'est l'attente. Il a été placé sous oxygène. Il dort. Son visage n'a plus de couleur. Il ouvre soudain les yeux, des yeux sans regard. Je ne suis pas sûre qu'il me reconnaisse. Il secoue la tête pour se débarrasser des fins tuyaux qui lui rentrent dans les narines. Je les remets. Il soulève sa main gauche pour les arracher. J'immobilise son bras. Il ne résiste pas. Mon père n'a plus de force. Sa peau est froide. Le bronzage d'Ischia a disparu. Toute la nuit, le vieil homme aux pieds mauves a entendu mon père essayer de parler. À peine suis-je près de lui qu'il me saisit le poignet. Il me fixe de ses yeux écarquillés, toujours ce regard qui semble ne pas voir. Les bouts de mots se bousculent. Joue, pas, pou, ta, f. Il bave beaucoup. Je l'essuie et lui demande de répéter, doucement, encore et encore. Comme à la roue de la fortune, je remplis peu à peu les blancs et je finis par comprendre. Est-ce que les journaux parlent de l'épouvantable catastrophe? Il me serre le poignet. Tu veux savoir si les journaux parlent de ce qui t'est arrivé? C'est ça? Oui! Il a presque rugi. Les larmes me montent brusquement aux yeux. Tout le monde en parle. Il lâche mon bras et pousse un long soupir. Soudain, une sorte de raclement vient de sa gorge. Un flot de salive coule sur son menton et il se met à tousser, de plus en plus fort. Il devient tout rouge. Je cours chercher quelqu'un. Mon père ne peut plus déglutir. J'ai traversé le hall en travaux de l'hôpital Broca. Plus épaisse qu'hier, une couche de poussière blanche recouvrait tout. L'air était comme brumeux. J'ai suivi le chemin tracé par des dizaines de semelles sur le sol poudreux. Je me souviens avoir mis mes pieds dans les grandes empreintes d'une paire de tennis. Je revois le relief des chevrons, pied gauche, pied droit, jusqu'au seul ascenseur qui fonctionne pendant les travaux. Nous étions nombreux à attendre. Juste avant que les portes ne se referment, de jeunes médecins en blouse blanche sont arrivés en courant, un gobelet à la main. L'odeur de café a envahi la cabine. Nous nous sommes serrés les uns contre les autres. Troisième étage, pôle SSR GA, soins de suite et réadaptation gériatrique. Au bout de l'interminable couloir, j'ai tourné à gauche. Chambre 386, 384, 382 et 380. J'ai trouvé qu'il avait meilleure mine. On l'avait rasé. En me penchant pour l'embrasser, j'ai reconnu l'odeur de son aftershave. Ses joues étaient douces. Il y avait encore un peu de mousse, blanche comme de la chantilly, au coin de ses narines. Quand j'étais petite, je trouvais que son nez, avec sa forme arrondie, polie et ses pores dilatés dans lesquels je distinguais des poils tout fins, ressemblait à une fraise. De sa main gauche, il a pris mon bras sans le serrer. Il m'a regardé bien en face. « Je veux que tu m'aides à en finir. » Je me suis figée. Il a cru que je n'avais pas entendu, car il a répété un peu plus fort. « Je veux que tu m'aides à en finir. » Jamais depuis son accident, il n'avait parlé aussi distinctement. J'ai vu sa main quitter mon bras. Elle n'est pas retombée. Elle est restée en suspens au-dessus du drap, les doigts légèrement écartés, comme celle d'un pianiste à la fin d'un morceau, tandis que résonne le dernier accord. Il m'observait. Je sentais son regard. La main est retombée. J'ai levé les yeux. Mon père me souriait. Un vrai sourire. Un sourire comme avant. Les yeux brillants, les pattes de doigts plissées. J'ai baissé la tête et j'ai vu mon sac par terre, noir sur le linoléum gris. Je l'ai ramassé. Les marches des trois étages ont défilé à toute allure. J'ai senti l'odeur du plâtre frais du hall et les grandes portes automatiques de l'entrée se sont écartées devant moi. La porte s'ouvre. Le docteur H me fait entrer. Elle est jeune et potelée. Elle a de longs cheveux, un visage souriant. La pièce est claire. Il y a des reproductions encadrées au mur, des étagères couvertes de livres et un ordinateur sur le bureau. Le docteur H me pose des questions sur l'état de santé de ma mère, les moyens financiers de mes parents, leur appartement, et note mes réponses en cochant rapidement les cases d'un formulaire. Nous devons savoir si, à terme, une hospitalisation à domicile pourra être envisagée. Elle repose son bic. Mais nous n'en sommes pas là. Elle a une bonne nouvelle à m'annoncer. Mon père va bientôt passer à une nourriture solide, sous forme d'aliments hachés. Ça lui fera du bien. Je respire un bon coup. Mon père m'a dit qu'il souhaitait en finir. Son sourire rétrécit. Elle sait, il le lui a dit, ainsi qu'à l'équipe soignante. Ça ne l'inquiète pas vraiment. Elle a l'habitude de ce genre de réaction. Elle a décidé d'augmenter les antidépresseurs. Elle se cale dans son fauteuil. Mais je ne vais pas vous raconter d'histoire. Si votre papa refuse de se battre, vu son état général et son âge, ça ne durera pas longtemps. Elle soupire. Espérons que les antidépresseurs feront vite leur effet. Et puis, il faut que votre papa se sente entouré. Il faut lui redonner le moral, hein ? Elle se lève, me tend la main. La mienne est moite et glacée. Ne vous en faites pas, tout va bien se passer. En général, ils finissent tous par s'accrocher à la vie. J'ouvre doucement la porte de la chambre. Mon père dort. La bouche entrouverte, il fait des petits bruits de gorge, des réguliers et calmes. Je regarde son visage. Je ne l'ai jamais autant vu que ces derniers temps. Le visage de mon père, un crrr, plus sonore que les autres. Sa jambe gauche s'agite. Son visage s'est contracté. Il ouvre grand les yeux. Il semble effrayé. « Papa, tout va bien, je suis là. » Il me fixe sans ciller. Ses lèvres s'arrondissent. Son bras gauche se tend vers moi. « Ne me laisse pas tomber. » Ma gorge se noue. Je voudrais virer les barreaux de ce lit, arracher la perfusion et prendre ce vieux nourrisson dans mes bras, embrasser son crâne déplumé, sa petite tête, et le tenir serré contre moi, jusqu'à ce qu'il n'ait plus peur. Je ne te laisserai jamais tomber, jamais. Je prends sa main, ses doigts se referment sur les miens. Je reste sans bouger, bien qu'après qu'il s'est rendormi, je veux que dans son sommeil, mon père sache que je suis là et que je veille sur lui. Aujourd'hui, il fait beau, un temps doré d'octobre. Mais vous ne vous rendez pas compte, votre papa est encore bien trop faible pour être assis. On ne peut même pas le redresser à plus de 30 degrés. Alors, le mettre sur un fauteuil roulant. L'infirmière hausse les épaules, à force de ne rien manger. La chambre est surchauffée. Le radiateur est bouillant. Je vais ouvrir la fenêtre. Non, je croyais qu'il dormait. Je m'approche de lui. Il me regarde fixement. Je pose ma main sur son bras. Sa peau est froide. Je remarque l'os saillant de son poignet. Mon père est en train de dépérir. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Son cou se tend. Sa tête se soulève. Ça. D'un geste du menton, il me désigne son corps, tout ça. Soudain, sa main gauche agrippe la barrière métallique. Il se redresse. L'effort le fait grimacer. Ce n'est. Nos visages se touchent presque. Plus moi. Ces mots m'explosent à la figure dans une gerbe de salive. Sa tête retombe. Ce n'est plus moi. Une larme apparaît au coin de sa paupière, court sur sa tempe et se perd près de son oreille, là où autrefois il s'était laissé pousser des rouflaquettes dont nous plaisantions. Je ne peux pas le laisser comme ça. Papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sa réponse vient tout de suite, d'un coup, net. Il faut absolument que je disparaisse. Cette fois, je ne m'enfuis pas. Il me regarde, je le regarde. D'accord. Que puis-je lui dire d'autre? Il a un petit mouvement sec du menton, un acquiescement. Et d'un geste impatient de la main, il me signifie que je peux partir. Je t'ai assez vu. J'en reste un instant bouche bée et j'éclate de rire.
Emmanuel nous fait part des réactions de son entourage à l'annonce de la demande de son père. D'abord Pascal, sa sœur. De toute façon, c'est sa décision. Ce n'est pas la tienne, ni la nôtre. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'aider à en finir? Je m'aperçois que je ne me suis même pas posé la question. Puis Marion, son amie, professeure de médecine, sortant de la chambre où André lui a expliqué qu'il souhaitait en finir, qu'il avait plus de 88 ans, et que ça allait bien comme ça. Et il lui a demandé si elle pouvait faire quelque chose. Je lui ai dit que son état se détériorait. Je le prendrai dans mon service et qu'on verrait à ce moment-là. Elle me sourit. Ah, j'oubliais le plus important. D'après la surveillante, il remange. Serge, son mari, je ne comprends pas que ton père te demande une chose pareille, à toi sa fille. Mais c'est justement parce que je suis sa fille. Mon père dort. Sa jambe gauche repose sur le drap, gainée jusqu'en haut de la cuisse par un bas de contention blanc. Je devrais saisir sa cheville, la soulever un peu afin de dégager le drap et de le remonter, mais je reste plantée là, incapable de détacher mon regard de cette jambe mince, légèrement repliée, de ce genou délicat où se dessinent des fossettes, de ce bas blanc, un bas de mariée. Mon père ouvre les yeux, fait une grimace, comme s'il avait un mauvais goût dans la bouche et se rendort. Je ne veux pas le réveiller. Je m'en vais. Je lui lis un long article du Monde sur la future vente de la collection Berger Saint-Laurent, dont mon cousin François est le commissaire priseur. Il m'écoute avec attention. Il a vraiment meilleure mine. J'ai fini ma lecture. Je referme le journal. Je suis curieux de voir comment ça va se passer. Je tressaille. Nous sommes en octobre et la vente aura lieu fin février. Dans 4 mois donc. Cela veut peut-être dire qu'il n'y pense plus. Ne crois surtout pas que j'ai changé d'avis. Il me regarde bien en face. Je suppose que tu ne t'es pas occupé de ça. Son visage est sévère. Je baisse les yeux. Pour la première fois de ma vie, je me sens devant lui comme une enfant désobéissante. Anne, son amie, est depuis longtemps membre d'une association qui milite en faveur du droit de chacun à décider de sa fin de vie. « Je vais t'aider », lui dit-elle. En rentrant, j'allume mon ordinateur. J'ai un mail d'Anne. Elle a contacté la déléguée de l'association, lui a expliqué ma situation et lui a communiqué mes coordonnées. La déléguée m'appellera bientôt. L'espace d'un instant, je revois Pascal, la mousse de bière sur sa lèvre supérieure, le restaurant taille. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, l'aider à en finir? Je regarde fixement les lettres noires, le fond blanc. La déléguée t'appellera bientôt. Vais-je réellement aider mon père à en finir?
Portable vibre, il clignote. Dans les pulsations bleutées de l'écran, un numéro inconnu s'est affiché. Avant même de répondre, je sais que c'est elle. Elle se présente, Eliane Joussaume, de l'association. Sa voix est un peu triste. Je me lève. Le parquet est froid sous mes pieds nus. Elle me questionne. Je lui raconte tout, l'AVC, la dépression et mon père qui ne se reconnaît plus. Ce n'est plus lui. Si j'ai bien compris, votre père ne souffre pas physiquement. Il n'est pas sous traitement antalgique de niveau 3, genre morphine ou fétanyl? Non. Il y a un silence. Je retiens mon souffle. Elle va me dire qu'elle est désolée, mais que dans ce cas, l'association ne pourra pas m'aider. Ma main est si moite que mon portable a failli glisser. Vous savez, ici en France, depuis Vincent Imbert et Chantal Sébir, tout est devenu plus compliqué. Avant, les choses se faisaient comme ça, sans en parler. Mais maintenant, elle m'explique la loi Leonetti, les amendements qui y ont été apportés et l'impasse dans laquelle se trouvent désormais médecins et malades. Pour en revenir à votre père, nous ne pourrons vraisemblablement rien faire ici. Il faudra que vous alliez en Suisse. Je peux communiquer vos coordonnées à une association avec laquelle nous sommes en contact. La femme qui s'en occupe est tout à fait remarquable, vous verrez. Ne vous en faites pas, de toute façon je vous accompagnerai. J'entends soudain la voix de mon père. En tout cas, je ne veux pas que cette bonne femme vienne avec nous. Mes jambes flageolent. Je n'arriverai jamais à regagner mon lit. La dame suisse a la voix légèrement chevrotante. Je l'imagine âgée. Elle parle le français avec un fort accent. Hémiplégie, atymie, couche, j'ai recommencé mon récit, lentement, en articulant bien. Au moment où j'allais prononcer ma phrase, il m'a demandé de l'aider à en finir, elle m'a interrompu. « Alors, votre père veut mourir, n'est-ce pas ?»« Oui. » Elle m'a proposé de nous rencontrer, Pascal et moi d'abord, notre père ensuite, la prochaine fois qu'elle viendrait à Paris, dans 3 semaines. « D'accord. » Elle m'a demandé si nous acceptions de participer à ses frais de déplacement et d'hébergement. 300 euros. Bien sûr. Alors, nous nous verrons le 12 décembre à 10h à mon hôtel, n'est-ce pas? J'ai tout noté. Alors bonjour, Madame Bernheim. Et elle a raccroché. Mon père a maintenant un fauteuil roulant neuf, gris. Serge raconte quelque chose, mais mon père ne l'écoute pas. Ses yeux sont fixés sur les pieds cannelés de ma chaise. C'est là qu'elle s'assiera? La dame suisse a confirmé notre rendez-vous à 10h demain. D'abord, nous la retrouverons à son hôtel, Pascal et moi. Ensuite, nous l'emmènerons ici afin qu'elle rencontre mon père. Oui, il hoche la tête. Très bien. Il lève la main gauche, le pouce et l'index dressés. C'est depuis peu son geste dès qu'il a quelque chose d'important à dire. Il faudra absolument penser à la prévenir, qu'elle me donne une forte dose, sinon ça ne marchera pas. Depuis mon pontage, j'ai le cœur très solide. Mon père nous attendait. Il a sûrement choisi cette chemise bleu clair en l'honneur de la dame suisse. Il se tient droit, ses yeux brillent. Ses joues sont roses d'excitation. Il est beau. Ils préfèrent tous deux que je reste. Comme mon père ne parle pas très distinctement, elle craint de mal le comprendre. Elle s'est assise en face de lui, sur la chaise aux pieds cannelés. Il s'est un peu penché vers elle. Il veut savoir d'où elle vient. De Zurich. Il connaît bien, il y a des amis. Il essaie de dire quelques mots en allemand, elle lui répond, il est content. Elle prend une longue inspiration. « Vos filles m'ont expliqué que vous souhaitiez... » « Oui, un mouvement de la tête, de haut en bas, un acquiescement plein de force. » Tandis qu'elle lui parle, il ne cesse de hocher la tête, le menton en avant, ferme. Le dossier à remplir, la Suisse, le médecin, la musique, l'antiémétique et la potion, il dit oui à tout. Où est-ce que ça se passe? À Berne. Il fait la moue. J'étais un peu déçue par la fondation CLI. Elle ne paraît pas avoir entendu. Vous devez être capable de boire vous-même 1 décilitre de liquide, n'est-ce pas? Ah bon? Mon père tend sa main gauche vers la table de nuit, prend son verre et boit, les yeux fixés sur elle. De petits poils blancs brillent sur sa pomme d'Adam qui monte et descend. Il repose le verre en le cognant exprès contre la table. Et son sourire est triomphal. « Quand ?» La dame suisse écarte les mains. « Quand vous voulez, le temps de réunir tous les documents du dossier, et aussi c'est bien d'attendre un peu pour être sûr. » Il hausse les épaules. « J'aime autant le plus tôt possible. » Nous sommes très satisfaits des progrès de votre père. Le docteur J nous sourit. Monsieur Bernheim mange bien. Il reçoit beaucoup de visites, ce qui est excellent. La plupart de nos pensionnaires ne peuvent pas en dire autant. Son état psychologique s'est considérablement amélioré. Et puis, il ne parle plus de... Elle hésite. De ce dont il parlait avant. Pascal me donne un léger coup de pied. Je baisse la tête pour ne pas croiser son regard. Même d'un point de vue moteur, il y a vraiment un mieux. J'en discutais encore tout à l'heure avec nos kinésithérapeutes. Elle se lève, nous aussi. Je me rapproche d'elle. J'aurais souhaité avoir une copie du dossier médical de notre père, si c'est possible. Pourquoi faire? Ma meilleure amie est professeure de médecine. Elle aimerait bien voir le dossier. Elle n'a qu'à me le demander elle-même. Je pourrais lui répondre que j'ai vérifié sur Internet que, d'après la loi de mars 2002, la clinique doit nous communiquer la copie de tous les documents que nous lui demandons, et ce, dans un délai de 8 jours. Mais je me tais. Tout à l'heure, j'appellerai Marion. Quand j'entre dans sa chambre, mon père regarde la télévision. Chut ! Sur l'écran, une ligne noire trace de petits monticules, quelques creux, et soudain une falaise abrupte et une immense crevasse. Aujourd'hui, l'indice du CAC 40 est tombé à moins de 2500 points, son plus bas niveau depuis l'éclatement de la bulle Internet il y a 6 ans. J'observe mon père, sa main gauche sur la télécommande, son cou tendu vers le poste. Il m'a souvent raconté, et à chaque fois il me semblait se recroqueviller, que, peu de temps avant de mourir, son père lui avait craché à la figure. « Toi, tu finiras ruiné, sans un sou. » Je me souviens, en vacances, des grésillements d'Europe numéro 1 que nous captions mal dans la maison isolée du midi, lorsque, le visage crispé, il plaquait le transistor contre son oreille pour écouter Top à Wall Street, tous les soirs après le dîner. J'entends crack boursier, lundi noir, et puis plus rien. Mon père a éteint la télévision et lancé la télécommande sur le lit. Il se tourne vers moi. Un mouvement rapide de la main gauche, paume en l'air. Je m'en fiche. Et un large sourire. Son visage est lisse, détendu. Il s'en tape. Il n'en a plus rien à foutre. Je comprends alors que mon père a vraiment décidé de mourir.
Emmanuel apprend que son père a eu un malaise. La clinique l'a envoyé aux urgences. « Comment tu te sens ?» Son visage se crispe. « J'ai eu très peur. »« Ne t'en fais pas, tout va bien. » Le médecin a dit que ce n'était pas grave, juste un problème de tension. Il secoue la tête. Sa main gauche agrippe le drap. « J'ai peur d'avoir une autre attaque. Si je perds la boule, ce sera foutu. Je ne pourrai plus aller là-bas. » Une larme coule sur sa tempe. Si tout est en règle pour la justice suisse, il n'en est pas de même pour la justice française. Les deux sœurs vont s'en occuper. Contact est pris avec l'avocat de leur père, mais ce dernier lui déclare « Je ne peux rien pour vous ». Emmanuel appelle un autre avocat que son mari et elle connaissent depuis longtemps. Il s'enquiert si son père a écrit sa détermination d'en finir. Mais celui-ci ne peut écrire, il n'y en a pas. L'avocat lui conseille de l'enregistrer ou de le filmer. Il veut savoir si nous comptons nous rendre en Suisse avec lui. Bien sûr, c'est nous qui l'emmènerons. Nous serons avec lui jusqu'au bout. Ça m'embête que vous l'emmeniez. Je préférerais que vous le rejoigniez là-bas. Tout se met en place. La déclaration est filmée. Dans un mois, j'aurai 89 ans. Si j'en avais 10 de moins, je me battrais peut-être. Et encore, je n'en suis même pas sûre. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que je ne veux pas de cette vie-là. Ça ne m'intéresse pas. C'est fini. Je ne peux pratiquement plus bouger. Je ne peux plus faire les gestes les plus simples de la vie normale. Je ne peux plus profiter de ce que j'aimais, de rien. Je ne pourrai plus voyager avec toi, Raphaël. Je ne pourrai plus rien t'apporter. Je ne veux pas continuer dans cet état-là. Ça n'a que trop duré. Ça va comme ça. Le jeune notaire est passé en fin d'après-midi. Mon père lui a remis l'enveloppe, sans préciser le contenu, et il est reparti. Le voyage est organisé. Et l'avocat rappelle à Emmanuel qu'il préfère qu'elle et sa sœur arrivent après. Ça y est, notre père est installé dans l'ambulance, couché. Je suis bien là. Il a l'air heureux. Pascal s'engouffre à l'intérieur pour l'embrasser. Cela ne dure pas très longtemps. Elle ressort. Je n'ose pas la regarder. À moi. Je noue l'écharpe autour de son cou. Le bleu marine lui va bien. Il est beau. Papa. Bon, ben, au revoir. Je regarde sa petite bouche, son nez et pour la dernière fois ses yeux qui brillent. Je l'embrasse. Il me repousse doucement. Je ne veux pas de pleureuse. Je sors. Nous restons toutes les deux l'une contre l'autre, plantées sur le trottoir, devant la porte béante. L'ambulancier fait coulisser la porte, bloque la poignée, nous serre la main et monte à l'avant. Le cul blanc de l'ambulance s'éloigne et disparaît au bout de la rue déserte. Et voilà. Mon portable sonne. Un numéro interminable s'affiche. La dame suisse. Madame Bernheim ? Oui, tout s'est bien passé. Je me lève d'un bond, j'ai la tête qui tourne. Alors, votre père était de bonne humeur, il a bu la première potion, et puis la deuxième. Il l'a trouvée amère. Il a dit qu'il aimait mieux le champagne. Nous avions mis de la musique, un quatuor de Beethoven, et il s'est rendormi. Et j'ai eu vos messages. Ce n'est pas la peine que vous fassiez le déplacement. La police est venue, les pompes funèbres aussi. Les formalités sont faites. Tout s'est bien passé. Vous étiez près de lui quand il est mort ? Oui, je lui ai tenu la main gauche. Je sens les larmes couler sur mes joues. Alors, je raccroche. Et j'appelle Pascal, ma sœur.
Ces extraits ont été lus par Denise et Annie, accompagnés par une sonate de Brahms, interprétée par Julius Katchen en piano solo. La lecture s'achève par un quatuor à cordes de Beethoven. À la technique, Vincent et Claude Michel, que nous remercions pour leur disponibilité. À la semaine prochaine.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 et la page d'accueil d'Impromptu littéraire. Vous nous y retrouverez.